Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Abouaf.
Bonsoir à tous, Bernard Abouaf au micro. On se retrouve comme chaque semaine pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Rav Lemel, bonjour à vous et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom et bonjour.
Rav Lemel, on avance dans l'étude de notre paracha, dans l'étude de ce texte qu'on lit chaque semaine dans nos communautés. Et donc là, on arrive à Ve'et Hanan. Et Ve'et Hanan, en fait, c'est un long discours prononcé par Moshe devant les Bnei Israël. On sent que c'est un petit peu la fin. Et vous voulez intervenir sur l'idée de Tefila, la prière. C'est quoi une prière? Et vous constatez que dans ce texte, en fait, Moshe Rabbeinu, Moïse, il n'a rien lâché. Donc, qu'est-ce que vous voulez nous dire ce soir, Rav Lemel?
Alors, on a en effet, vous savez, un midrash qui est très intéressant et qui nous dit que lorsque Moshe, puisqu'on sait que Moshe est en train de donner ses dernières recommandations au peuple d'Israël avant qu'il ne rentre sur la terre d'Israël, alors il leur dit la chose suivante, « Va'et Hanan el Hashem ba'et il est mort », que j'ai littéralement supplié à Kadosh Baruch Hu, « Ba'et Haï » à ce moment-là, les morts en disant, et là donc, Moshe Rabbeinu, Moïse, donc, exprime la prière qu'il a pu faire de pouvoir entrer sur la terre d'Israël. Et sur place, le Midrash nous dit que le terme de Va'et Hanan a une valeur numérique qui est de 515, et on nous dit que, et c'est comme ça dit l'Agmara aussi dans Sota, que Moshe a formulé 515 prières pour pouvoir faire en telle sorte que Dieu lui permet de rentrer sur la terre d'Israël. Alors, il y a quelque chose ici qui est très impressionnant, c'est de comprendre c'est quoi cette histoire, au fond, de cette fille-là qui ne s'arrête pas, d'accord, puisque c'est quelque chose qui est quand même complètement bouleversant. Alors, il faut bien comprendre que, tout d'abord, c'est une prière pour quelque chose qui est paradoxalement absolument pas personnel. D'accord. C'est-à-dire que Moshe, en vérité, veut rentrer sur la terre d'Israël. Et d'ailleurs, le Talmud nous dit, il ne veut pas là-bas pour aller goûter les bonnes oranges ou les bons citrons ou les bons pamplemousses. Non, pas du tout. Il veut aller là-bas parce qu'il veut accomplir mitzvot atluyot ba'aretz, les commandements qui sont liés à la terre d'Israël. Et donc, c'est intéressant de voir au fond qu'on a ici l'idée d'une prière dans laquelle, eh bien, on prie pour pouvoir avoir les moyens de servir Dieu de la plus belle manière qu'il soit. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que Moshe, au fond, ici, ce qu'il veut, il veut quelque chose qui n'est pas pour lui. Il veut pouvoir accomplir la totalité de tous les commandements que l'on puisse faire, et entre autres ceux qui sont liés à la terre. Et c'était aussi, entre autres, pour construire le Beth Amikdash, le sanctuaire. Alors, il faut savoir que on a ici quelque chose qui est une forme d'intensité incroyable, mais la question qui se pose, ok, et donc Dieu dit à la fin non, et alors ces prières, elles servent à quoi? Parce qu'elles ont été exprimées. Et on a ici un commentateur qui s'appelle le Sfat Emet, qui va dire quelque chose de très intéressant, et c'est une idée qui est capitale pour nous. Il va dire qu'il y a ce qu'on appelle dans le ciel, hein, c'est les mots qu'on utilise généralement, ce qu'on appelle « otsar shel tfila », c'est-à-dire un trésor de prière. Traduction, chaque prière, eh bien, elle est là, elle est conservée. La question est de savoir à quel moment elle va pouvoir agir dans l'univers. Et on dit clairement qu'il n'y a aucune prière qui disparaît, aucune prière qui ne sert à rien. Mais à quel moment les choses vont agir? Ça, c'est déjà quelque chose de différent. Alors, je vais vous prendre un exemple qui peut vous faire sourire. Essayez d'imaginer une personne qui prierait pour trouver son conjoint. Mais bon, la personne, elle a 15 ans. On peut se marier à 15 ans, c'est vrai. Mais ça ne sert à rien. Mais en vérité, si. Parce que le jour où arrivera le moment dans lequel la personne doit construire son couple, eh bien, à ce moment-là, la prière va agir. Et ça, c'est ce que le Sfat Emet nous dit, c'est que au fond, comme si les prières de Moshe étaient stockées un petit peu dans le ciel, et quand arrivera le moment, eh bien, elles agiront dans le monde, et on peut imaginer qu'en effet, on en a bien besoin de ces prières que Moshe Rabbeinu a pu faire pour qu'elles puissent en effet intervenir dans l'univers dans lequel nous sommes. Maintenant, évidemment, on a ici cette autre notion qui est la notion d'acharnement, mais non pas d'acharnement dans sa dimension pesante, mais c'est-à-dire on a le droit de recommencer à prier. Et au fond, c'est ce qu'on fait tous les jours. Tous les jours, on reprie à nouveau, on reprie pour les mêmes choses. Et parfois, elles n'arrivent pas immédiatement. Mais nous savons pertinemment que tous les mots que l'on prononce sont autant d'énergie qui apportent quelque chose à l'univers. Pourquoi? Parce que au moment où l'on prie, on est en train de dire quoi? On est en train de dire, il y a un créateur de l'univers. Tout dépend de lui. Nous devons agir, mais de manière ultime, nous dépendons pleinement de lui. Et donc, on réinscrit à chaque prière cette notion dans le monde. Or, nous savons qu'aujourd'hui, au fond, quelles sont les grandes difficultés qu'on a dans le monde actuel? C'est cette illusion d'indépendance qui amène l'individu à dire, mais je fais ce que j'ai envie, ce que je veux. Et quelque part, eh bien, c'est une forme de société dans laquelle on devient de plus en plus égocentré. Se dire, mais non, il y a un créateur de l'univers, tout dépend de lui, et donc je me tourne vers lui, et donc il est présent, et donc j'ai des comptes à lui rendre, et donc évidemment je dois me poser la question de savoir qu'est-ce qu'il attend de moi. Évidemment, ça changerait totalement les univers dans lesquels on se trouve. Et essayons d'imaginer, vous savez, avec un exemple qui peut nous faire sourire, que le créateur de l'univers, ce soit le PDG, d'accord, le PDG, et on est ici dans une société. Mais au fond, qu'est-ce qui fait qu'une société peut bien marcher, qu'un business peut bien marcher, que tous les employés. C'est quand chacun des employés se dit, qu'est-ce que le patron attend de moi? Qu'est-ce que le patron attend de moi? Essayez d'imaginer chaque personne qui fait partie d'une société qui se pose cette question. Et plus encore, à qui on a donné exactement le détail de ce que l'on attend de lui et qui tous les jours cherche à faire exactement ce que l'on attend de lui. Mais les choses seraient radicalement différentes. Eh bien, c'est un petit peu cela aussi qu'on inscrit à l'intérieur de la tefila. On fait cela de cette manière. Et ça, c'est ce que Moshe Rabbeinu rappelle aux enfants d'Israël avant de rentrer sur cette terre. Puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, Moshe est là, est en train de dire au peuple d'Israël, voilà, vous allez rentrer, voilà tout ce que j'ai à partager. Est-ce que vous pensez véritablement que Moshe avait besoin de rappeler aux enfants d'Israël, de leur dire, vous savez, voilà mon trauma, c'est dramatique, j'ai prié, Dieu ne m'a pas entendu, oh là là, plaignez-moi, pas du tout. Il n'y a pas un mot qui va être prononcé dans la Torah qui n'a pas sa raison d'être. Et donc, comme Moshe Rabbeinu dit, va être Anan el Hashem, va être il est mort. C'est-à-dire, je ne me suis pas découragé. Je ne me suis pas découragé. Je sais qu'on peut changer les choses. Et à un moment, Dieu a dit, Ravlar, stop. Mais tant que Dieu n'a pas dit stop, eh bien, c'est un encore et encore et encore. Et donc, rappelez-vous, peuple d'Israël, que malgré le fait que Dieu avait dit non, je me suis dit la prière peut tout changer. Et donc j'ai prié. Et après, qu'est-ce qu'il leur dit? Et sachez pourquoi, au fond, j'avais envie. Donc savez pourquoi il faut qu'on ait envie d'aller sur cette terre d'Israël. Pourquoi nous faisons tout pour pouvoir y accéder? Parce que tout simplement, c'est là-bas qu'on va pouvoir accomplir de nouvelles mitzvot, on va pouvoir accomplir de nouveaux commandements. On va pouvoir à un moment se rapprocher encore plus du créateur de l'univers. Donc c'est cet état d'esprit-là que vous devez avoir en tête au moment où vous-même vous allez rentrer sur la terre d'Israël. Et à partir de là, évidemment, Moshe, donc, ayant adressé ces paroles-là au peuple d'Israël, eh bien, dit que voilà que Dieu lui a répondu non, d'accord, mais il va lui laisser néanmoins, comme on le sait plus tard, la possibilité de voir cette terre. Et qu'est-ce qui lui permet de voir cette belle montagne et le Levanon? C'est quoi le Levanon? C'est pas le Liban. Le Levanon, c'est quoi? Eh bien, c'est le lieu du Beth Hamikdash, le lieu où il va y avoir le temple. Pourquoi il est appelé comme cela? Parce que Levanon vient de la racine Lavan. Et Lavan, c'est quoi? C'est blanc. C'est le lieu dans lequel Dieu blanchit les fautes du peuple d'Israël, le lieu dans lequel Hachem nous révèle qu'il n'a pas envie que le peuple d'Israël joue bas de gamme, mais qu'il désire que le peuple d'Israël incarne vraiment ce que l'on attend de lui. Et donc, lorsqu'il faute, on lui dit, n'aie pas peur de te repentir, le Beth Amikdash, le sanctuaire, le temple est là pour t'aider à reprendre la mesure de la valeur et de l'importance des choses pour pouvoir véritablement aller dans et assumer, pardonnez-moi, pleinement la mission qui va être la tienne. Voilà un petit peu ce qui se joue au début de cette paracha, paracha dans laquelle après, évidemment, on va retrouver à nouveau le texte des Aseret HaDibro, des 10 paroles que Moshe remet de nouveau face au peuple d'Israël. On a donc ici un enseignement qui est capital puisqu'il nous permet de mieux comprendre en vérité quel est l'état d'esprit que Moshe a voulu insuffler au peuple d'Israël avant qu'on ne rentre sur notre terre, bien comprendre quel est le sens de la venue du peuple d'Israël sur les terres d'Israël et l'importance de la tefila, la capacité de ne pas se résigner, mais au contraire de se battre, d'avancer, de faire tout et savoir que à aucun moment Moshe ne regrette d'avoir fait ses prières, même si la réponse n'a pas été à la hauteur de ce qu'il voulait, parce qu'il sait très bien que ses prières vont servir pour le peuple d'Israël, qu'elles seront là, présentes au moment où elles doivent l'être. Et c'est ce qu'on espère d'ailleurs très fort actuellement.
Amen, amen. Rav Citruc qui disait, quand on lit des Tehillim, on lance une flèche dans le ciel et elle va retomber. On ne sait pas où, on ne sait pas quand, mais elle va retomber. Il n'y a aucune
Exactement.
flèche, hein, c'est beau.
Mais ce sont des flèches de douceur.
Ravi du Lemel, je vous remercie et je vous souhaite Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Mordechai Bitton qui est à Jérusalem. Bonsoir Rav Mordechai, Shabbat Shalom.
Bonsoir, Shabbat Shalom au revoir.
Alors Rav Mordechai, vous voulez vous interroger avec nous sur le schéma Israël puisqu'il réapparaît dans notre paracha, dans notre texte de cette semaine, Ve'etranan. Et bon, le schéma c'est la profession de foi, elle a même maintenant une histoire à travers les siècles qui est hors du commun sur le c'est un rapport particulier des Juifs avec cette profession de foi, et peut-être même de ce texte avec les Juifs, c'est vous qui allez nous expliquer. Mais qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire? Pourquoi c'est ça, c'est ce passage-là de la Torah qu'on a choisi pour dire, voilà, la foi des Juifs, c'est ça?
Alors oui, effectivement, parce qu'on aurait pu prendre, par exemple, comme profession de foi fondamentale, le premier commandement des 10 commandements. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte », qui est le commandement qui nous enjoint d'avoir de la émouna, de la foi, connaître l'intervention d'Hachem dans le monde. Hachem a créé le monde, mais il intervient. Il intervient dans l'histoire, il conduit l'histoire, il a même provoqué des bouleversements extraordinaires. Mais non, nos chachamim ont choisi d'intégrer dans la tefila le schéma Israël. Alors en fait, il y a 3 éléments qui sont fondamentaux dans le passouk du schéma Israël. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Il y a 3 choses. Un, d'abord, il y a l'élément de l'écoute. Deuxièmement, il y a l'élément du fait d'être le peuple d'Hachem et qu'Hachem est notre Dieu, un lien intime. Et il y a l'élément de l'unicité absolue d'Hachem, c'est-à-dire que l'ensemble des faits et des éléments divers de la création obéissent tous à un principe qui est un principe de l'unicité. Je vais revenir rapidement sur ces 3 points. Le premier, l'écoute, c'est fondamental. Tout commence avec l'écoute, même dans les couples d'ailleurs. À partir du moment où on refuse d'écouter, dans l'éducation, on refuse d'écouter, dans les communautés, dans les groupes, à partir du moment où on refuse d'écouter, on n'a plus d'espace mental pour l'autre. Écoute et comprends, c'est ça la définition de schéma. Tu dois avoir un espace mental dans lequel il y a une place pour écouter ce que Hachem te dit. Il le dit dans la Torah, il le dit à l'époque des prophètes dans les prophéties, il le dit au Mont Sinaï quand il donne la Torah, mais Hachem, il nous parle. Il faut que tu apprennes à écouter, à comprendre ce qu'Hachem te dit. D'abord dans la Torah, mais aussi dans la vie d'une manière générale. Et le principe d'écoute, il est fondamental. Parce que c'est un principe qui se décline, comme je l'ai dit, dans la relation à l'autre et dans la relation au monde. Parce que même le monde nous parle, les événements du monde nous parlent. Ça, c'est la première chose. Dans l'oreille. Tout commence avec l'écoute et tout se défait quand on refuse d'écouter. Hachem est notre Dieu. Il y a un lien intime entre Hachem et nous. Un lien intime. Ce lien s'appelle la Torah. C'est la Torah qu'on a reçue au Mont Sinaï. La Torah, tu ne peux pas se laisser territorialiser. Hachem est infini, et sa Torah, elle est infinie. Elle ne peut se laisser soumettre à aucune mode, à aucune idéologie. On est encore, en quelque sorte, ici, dans un lien qui est un lien intemporel, un lien qui est au-dessus des lois de la nature. Hachem est notre Dieu, et nous, on est avec lui comme si, en quelque sorte, pas comme si, d'ailleurs, de manière très factuelle, grâce au fait qu'on ait un lien avec Hachem, le peuple juif est éternel et indestructible. Et le dernier point Hachem est Echad, c'est un des points les plus fondamentaux qui fait que, par exemple, l'islam est d'une certaine manière plus proche de nous, du point de vue de sa relation au divin, que le christianisme, ou même le protestantisme. Parce que le christianisme admet le principe de la Trinité, l'islam admet le principe de l'unité absolue de Dieu. Il le proclame. C'est la religion qui est là, qui est finalement, de ce point de vue-là, la plus proche de nous. D'ailleurs, d'autres points de vue, elle est sauvagement opposée à nous, mais le principe de l'unité, c'est un principe fondamental, parce que qu'est-ce qu'il dit, ce principe? Il dit qu'en vérité, la complexité du vivant et la variété des éléments du vivant se relient à un principe unique, originel. Hachem conduit le monde dans toute sa diversité. Et en fait, il y a un travail qui nous est demandé ici. C'est de retrouver, d'avoir conscience de la présence d'Hachem dans chaque élément de la vie. Et c'est un élément fondamental parce que la vie telle que nous la vivons, spécialement dans cette période-là, maintenant, où on a beaucoup d'antisémitisme, beaucoup de haine, où on a des forces centrifuges, par exemple ici en Israël, qui tirent de tous les côtés, on comprend mal les choses. En fait, il faut s'habituer à comprendre que Hachem conduit tout. Par exemple, dans Az Yasher Moshe, le cantique de la mer, que nous chantons tous les enfin que nous récitons en tout cas tous les matins, il est présent dans toute la tefila. Là-bas, la spécificité de ce cantique, c'est qu'il proclame qu'en fait Hachem gouverne aussi les esprits des dirigeants, les esprits des gens. Hachem gouverne aussi les choix, il conduit les choix des gens. Et vous voyez ça, cette adhésion à ce principe et finalement le travail qu'on peut faire pour comprendre ce principe, c'est finalement ce qui va nous permettre de ne pas devenir fou. Parce que dans la folie des événements et dans toutes les surprises qui nous réservent, on ne comprend rien. Il y a en Israël une femme qui s'est exprimée. Dès qu'il y a quelques années, le terroriste Kozo Okamoto, le japonais qui avait fait l'attentat à Lod et tué des touristes et des pèlerins portoricains, il avait été libéré. Bon, il y avait aussi des morts aussi, des Israéliens. Elle dit, le voir libre, ça m'a rendu fou. Mais si j'ai de la Emouna, alors ça va, c'est mieux. Et vous voyez, dans le contexte du 7 octobre, c'est la même chose. Avoir de la Emouna, comprendre ce passouk, Shema Israël, Hashem, Hashem Echad, le comprendre maintenant dans un contexte comme le nôtre, qui est un contexte qui rend les gens très anxieux, se relier à cette dimension-là, c'est une dimension qui permet de prendre un petit peu de hauteur par rapport aux événements et de s'accrocher à un principe qui est un principe premier. Hachem conduit les événements, Hachem conduit la nature, et on a un lien intime avec lui. Donc, ce qui nous arrive a un sens. Ce qui nous arrive a un sens. Dieu veut quelque chose et nous demande de réagir aux événements. Voilà, je crois que c'est une raison pour lesquelles, en résumé, pourquoi ce passouk a été retenu plus que d'autres versets. Et c'est la raison pour laquelle, au travers des siècles, il est devenu la profession de foi parfois ultime, mais pour ceux qui l'avaient au quotidien, la profession de foi structurante de la relation du juif à sa neshama, à son âme et à Dieu. Voilà ce qu'on peut dire sur ce passouk Shema Israël.
On avait fait une interview du Rav de Grenoble qui a eu sa maison entièrement brûlée par un cocktail Molotov qu'ils ont jeté dans le jardin, et après toute la maison a brûlé, et eux ils étaient en train de faire un kiddush à la synagogue, ils s'en sont sortis un thème, il n'y a plus rien, il faut voir les photos, elles sont impressionnantes, mais vous connaissez l'histoire, vous avez vu ça comme nous, et nous on interview ici à Radio Shalom, et comme c'est un Rav, il dit, il faut que je fasse un Dvar Torah, il a toute sa maison détruite, mais il dit, mais faut que je dise un mot de Torah quand même. Et à quoi il pense? Il pense au schéma, et il nous dit, savez, pourquoi on répète deux fois Hachem, Hachem Elokeinu, Hachem Echad? Alors il dit quelque chose de très joli, il vient en complément de ce que vous venez de nous dire, il dit, parce que Hachem c'est notre Dieu, mais Hachem c'est aussi le Dieu de tout le monde, il n'y en a qu'un, c'est le nôtre, mais il est à tout le monde. J'ai trouvé ça tellement
joli. Ouais, c'est extraordinaire, parce que j'ai rebondir sur ça, c'est que maintenant, Elokeinu c'est notre Dieu, mais un jour il sera reconnu comme étant le Dieu d'humanité, et ça c'est au fond l'espoir messianique pour lequel on prie trois fois par jour, je l'évoque souvent. Alors je sais que pour des esprits sceptiques ou des esprits laïcs, ce n'est pas très compréhensible. Mais en fait, il faut qu'ils comprennent que derrière tout ça, il y a l'espoir finalement que les gens reconnaissent cette idée que Dieu a créé le monde et qu'il l'administre, qui est une idée universelle. C'est ça le messianisme juif, hein. C'est de faire tendre les gens vers une idée universellement acceptée, mais qu'ils adhèrent à cette idée. C'est leur travail d'y adhérer. C'est ça, le juif doit y adhérer, mais l'humanité aussi doit y adhérer. C'est fondamental de le comprendre. On n'impose rien. On raconte. Et après, chacun dispose.
Rav Mordechai, et chacun écoute. Rav Mordechai, Vitton à Jérusalem, je vous remercie. Et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gué. Bonsoir Rav Gué, Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Alors Rav Gué, vous voulez nous parler aujourd'hui d'une fête très belle, dont on ne parle pas forcément tout le temps, et qui pourtant, dit-on, c'est une des fêtes qui resteront quand même après le Mashiach, tellement elle est belle et importante, c'est Tou B'Av. On l'appelle, nous, parce qu'on n'a pas votre érudition, la fête des amoureux, on dit un peu ça comme ça. Mais vous, vous avez envie de nous dire précisément de quoi il s'agit, parce que Tou B'Av, eh ben, c'est ce Shabbat, c'est la fête. Donc, ben dites-nous, comment vous vous l'appelez, Tou B'Av ?
Alors, c'est effectivement le nom officiel, c'est Tou B'Av, donc le 15 Av. Il faut savoir que dans l'avenir, c'est-à-dire on parlait de la fin des temps, la plus grande fête de l'année sera une fête qui durera 7 jours, elle commencera le 9 Av. Et se terminera le 15 Av, avec un point d'orgue le 15 Av. Ce sera la plus grande fête, puisqu'on nous dit que le 9 Av se transformera d'un jour de jeûne et de deuil, un jour de joie, le plus grand jour de joie, mais ça durera 7 jours, et le dernier jour sera le 15. Alors, pourquoi le 15 Av? C'est effectivement, on parle d'une très grande fête. Alors, ben, ça l'a fait des amoureux, je crois que c'est pas tout à fait ce que les sages ont voulu mettre en avant cette fête.
Les journalistes.
Voilà. C'est que, bon, effectivement, alors c'est vrai qu'il y avait des présentations, mais des présentations un petit peu pas très amoureuses, puisqu'il s'agissait en fait de jeunes filles qui allaient dans les vignes, dans les champs, pour effectivement se présenter à des jeunes hommes intéressés par le mariage. Donc c'était plutôt des mariages plus arrangés que liés à des sentiments, en tout cas au début d'amour. Mais effectivement, c'était particulier parce que ces jeunes filles étaient habillées toutes de la même façon, même les femmes riches et les filles de riches. Étaient habillés simplement, tous de la même tenue, pour ne pas faire de différence, chacune avec des arguments. L'une disait effectivement qu'elle était belle, l'autre parlait de sa famille, qui était une famille importante, d'autres... Enfin, en tout cas, chacune apportait ses arguments. Et puis, les garçons s'intéressaient. Alors, ce qui m'intéresse, c'est surtout de savoir pourquoi cette date. Qu'est-ce qui fait que le 15 av, on pense à des shidouchim, on appelle ça en hébreu les shidouchim, une présentation en vue d'un mariage. C'est ça la question, pourquoi ce jour-là? Alors, le 15 Av, c'est 40 jours avant le 25 Elul. Le 25 Elul, c'est le premier jour de la création, en fait. La création, je vous rappelle que Rosh Hashanah, c'est l'anniversaire de la création de l'homme. Par contre, le monde a été créé quelques jours avant. C'est le 25 Elul, donc le mois qui précède le mois de Tishri. Et donc, 40 jours avant, on est le 15 Av. Quel rapport? Quelle est cette idée de 40 jours? C'est qu'on dit que 40 jours avant la naissance, même la conception d'un enfant, pardon, pas la naissance, mais la conception d'un enfant, Dieu déclare dans le ciel le fils, enfin un tel pour la fille, la fille d'un tel. En clair, il annonce déjà l'âme sœur pour la personne qui va être conçue dans 40 jours. C'est 40 jours avant. 40 jours avant, c'est donc une annonce sur la future femme d'un futur homme qui va être créé dans quelques jours. Alors, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que on veut faire un parallélisme entre la création du monde et la création de l'individu, de l'homme, qui lui aussi, un peu comme Dieu, a été un rôle, celui de créer son petit monde, notre maison à chacun d'entre nous, c'est notre femme, c'est notre maison, c'est notre intimité, mais c'est aussi l'occasion pour nous d'exprimer des potentialités qui pourraient ne jamais s'exprimer si on n'avait pas l'occasion de le faire dans le cadre d'une maison, d'une création d'une famille, où évidemment dans la relation du couple il y a énormément de choses qui sont sollicitées, mais aussi dans la création d'une cellule familiale où on est un petit microcosme et qui comparable avec ce que Dieu a voulu faire lorsqu'il a créé le monde. Dieu est évidemment infini, complet, parfait. Et il a décidé de créer le monde, pour une raison qu'il faudrait longuement expliquer. En tout cas, il l'a décidé un jour. Et le monde est finalement comme un peu une sorte de maison où Dieu doit apparaître, doit se présenter, mais de façon très discrète, à nous de le chercher, de le découvrir. Mais il est dans le olam, qui veut dire elem, la discrétion. Mais Dieu veut apparaître justement dans le monde, pour une raison qui lui est propre. Ainsi, quelque part, lorsque Dieu, 40 jours avant le jour de la création du monde, déclare sa volonté de s'associer à cette belle réalisation qu'est le monde, eh bien, chez nous aussi, chez les hommes, va naître cette envie de créer son propre microcosme, son univers, qui est celui de sa famille, qui commence d'abord par, évidemment, la présentation d'une jeune fille qui va devenir notre femme et avec laquelle on va essayer de créer quelque chose. Alors je voudrais un peu approfondir en expliquant que ce n'est pas juste un rapport, on va dire, une métaphore lyrique, sympathique, et c'est tout simplement aussi pour nous expliquer ce que c'est qu'un mariage. Un mariage, c'est justement un homme qui doit non seulement être dans, entre guillemets, dans sa tête, et dans son cœur, mais il y a aussi l'intelligence de la réalisation. C'est-à-dire qu'on peut être un Einstein, c'est-à-dire dans sa tête, un génie, on peut avoir un cœur très de grande sensibilité, mais pas obligatoirement réussir son mariage, pas obligatoirement réussir la transmission aux enfants, pas obligatoirement réussir son ouverture vers la communauté, vers sa famille en premier. On pourrait être tout simplement plein d'idées, mais il y a une intelligence de la réalisation, de la mise en pratique, et qui est une intelligence tout à fait particulière que l'homme doit savoir développer. Et Dieu a voulu justement qu'on sorte mina koach à la poêle. Le but de la création, c'est sortir ce qui est potentiel, lui donner la possibilité de s'exprimer. Or, dans notre potentialité, nous sommes aussi des créateurs de monde, c'est-à-dire nous sommes capables d'être des bâtisseurs, et ça commence par notre famille. Et lorsqu'on est capable de bâtir une famille et de transmettre des valeurs, Dieu dit, voilà, vous avez réussi quelque chose qui était finalement le projet de la création. Parce que j'ai créé le monde, j'étais un bâtisseur d'un monde tellement différent de moi, tellement imparfait, mais dans lequel quand même il y a des belles choses qui se font, et puis aussi des moins bonnes. Mais il y a des très belles choses aussi qui se font, des choix qui sont faits. Et Dieu dit, je suis fier de ce monde, qui est finalement un chef-d'œuvre, parce que, enfin, un chef-d'œuvre en devenir, hein, pour l'instant pas encore, mais où en tout cas il y a des personnalités qui sont des vrais chefs-d'œuvre, parce qu'ils ont su comprendre le message et le mettre en application dans des situations des fois complexes. Et l'homme aussi, lorsqu'il est obligé avec sa femme et ses enfants de transmettre, d'adapter, de traduire, eh bien, il réussit une mission pas simple, celle d'être le routine à corps et la poêle, la capacité de trouver l'intelligence pour pouvoir exprimer. Prenons un exemple très simple. On peut être dans une yeshiva, dans un collège, étudier les halakhot de Shabbat, donc expliquer clairement comment est-ce que doit se vivre un Shabbat, quelles sont les mitzvot, les choses positives qu'il faut faire, les interdictions nombreuses à ne pas faire. Une fois que le Shabbat est là, dans le concret, à la maison, ne pas être capable de traduire dans des faits, et surtout ne pas être capable de mettre l'ambiance et de faire de ce que Shabbat doit être, c'est-à-dire un moment de paix, de bonheur, de plénitude et de oneg, de délectation. Savoir communiquer, savoir faire aimer le Shabbat, savoir inviter des personnes peut-être différentes de nous et de leur faire aimer le Shabbat, etc., etc. Tout cela, c'est un homme parfait, c'est un homme qui arrive à non seulement être, mais aussi de faire en sorte qu'autour de lui, il soit qu'il ait un rayonnement, une aura, et qui se mesure aussi à ce qu'il a su faire autour de lui. Sa femme, ses enfants, c'est une partie de lui-même, mais c'est aussi une partie de ce qu'il a su imprégner autour de lui. Un petit peu le message que je voulais rappeler, le quinzave. Quinzave, c'est le moment, effectivement, où on fait des présentations. Il n'y a pas eu seulement ça, il y a eu surtout un moment très important que nous décrit la Gemara dans Ta'anit, c'est qu'ils ont su, le quinzave, que le décret, le fameux décret où tous les hommes qui étaient sortis d'Égypte devaient mourir dans le désert. Ils faisaient tous les 8 Av, hein, ils creusaient une tombe, ils se couchaient dans la tombe et une grande partie ne se relevait pas, le 9 Av. Cette année-là, ils ont creusé les tombes, ils se sont couchés dedans le 9 Av, mais ils ont vu que tout le monde était indemne, personne n'était mort cette année-là, et ils ont su, le 15 av, ils ont entendu un peu, parce qu'ils se sont dit peut-être qu'on s'est trompé de date, le 15 av, c'est un moment où la lune est pleine, ils ont dit bon, ça y est, on a compris, tout le monde est, le décret est terminé, tout le monde s'est relevé de sa tombe. C'est donc un grand moment de fête de se dire, voilà, on a passé cette terrible décret de la disparition liée à la faute des explorateurs. Tout le monde est décédé. On peut maintenant tous se préparer à entrer en Eretz Israël. Donc ça a été aussi l'occasion d'une grande joie de se dire, voilà, que le décret est derrière nous. Donc il y a différentes choses dans d'autres raisons qui sont écrites dans la Gemara dans Tahanit et qui rappellent que c'est un moment spécial. Donc des us et des coutumes ce jour-là, il n'y en a pas tellement. On a l'habitude de ne pas dire évidemment le Tachanoun, les supplications, mais comme c'est Shabbat, de toutes les manières, on ne le dit pas. On ne dit pas le titre Katra Tzedek, donc au moment de Mincha de Shabbat. Mais sinon, effectivement, il n'y a pas d'usage particulier de Minagim ce jour-là. C'est surtout, je dirais, une fête en devenir aussi, puisque je vous dis que ce sera l'apothéose de la grande fête qui suivra le 9 av. Et nous espérons que voilà, très bientôt, nous pourrons vivre pleinement cette fête future et véritablement avoir dans ce jour-là compris, enfin, réaliser totalement le projet divin parce qu'il a créé le monde. Et chacun d'entre nous doit réaliser son propre projet, qui est le projet divin dans sa vie, dans sa intimité, dans sa maison. Est-ce que je vous souhaite à tous.
Amen, amen. Ben, un bon bouquet de fleurs, par exemple, ça peut être une bonne coutume.
Pourquoi pas.
Hein. La meilleure des coutumes. On vient avec un... et on met une bonne ambiance. Voilà. Rav Gué, je vous remercie. Et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci d'y avoir prêté attention. C'est à mon tour de vous souhaiter à toutes et à toutes Shabbat Shalom. Shalom leboy na boy, Hashem lo yishmarihi. Shav shokat shoy bay, Hashem lo yine bayis. Shalom leboy na boy, Hashem lo yishmarihi. Shav shokat shoy bay.